Hashtag, un autre regard sur le handicap.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Alors le mois dernier, nous avons parlé de mobilité. Pour ce mois-ci, nous allons évoquer la loi du 11 février 2005 qui fête donc cette année ses 20 ans, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pour cela, toujours à mes côtés, Anne Clément, directrice de la communication au Claude Uni. Bonjour Anne.
Bonjour.
Nous avons également avec nous Xavier Marette, le directeur de l'ARS Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Rouillère-Vanier de la direction départementale des territoires. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également Marie Zedani qui sont travailleurs des AT et délégués du personnel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc la loi du 11 février 2005 intitulée « Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a apporté une nouvelle définition légale du handicap en France. Cette définition est inscrite du coup dans l'article 114 du Code de l'action sociale et des familles, je vais vous la donner. « Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Déjà, j'aimerais savoir si cette définition vous convient, si vous la trouvez complète, Xavier Marette.
Oui, merci beaucoup. Alors, cette définition, c'est une des grandes nouveautés de la loi de 2005 qui a redéfini le handicap pour que la définition du handicap dans le droit français se rapproche des définitions qui étaient en vigueur au niveau international. Et cette définition, elle a plusieurs avancées. La première et la plus importante, c'est qu'elle dit, comme vous l'avez dit, que le handicap, il est subi dans son environnement. Et ce terme « dans son environnement », ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important. Ça signifie qu'en fait, on n'est pas handicapé par nature, on n'est pas handicapé de fait, de façon absolue, mais c'est dans son environnement, dans une situation. Et c'est pour ça que depuis cette loi, on ne parle plus de personnes handicapées, mais de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que c'est l'environnement, l'accessibilité, les moyens qui sont mis en place, tout ce qui entoure la personne, qui peuvent constituer et créer ou majorer le handicap. Donc ça, c'est vraiment la première nouveauté de cette loi et qui est le fondement du passage vers l'objectif de société inclusive. Parce que c'est parce qu'on dit que le handicap, il est dans son environnement, qu'on peut travailler sur l'environnement pour justement inclure les personnes en situation de handicap dans la société.
Ça, c'est un véritable changement à partir de cette loi de 2005 ?
C'est un vrai changement philosophique, presque. C'est-à-dire que quand on examine l'histoire du handicap, pendant très longtemps, en France, mais dans d'autres pays aussi, on a été dans une vision très curative, très médicale du handicap. C'est-à-dire que le handicap était pensé que comme une maladie et la façon de résoudre les situations de handicap, de traiter, était juste médicale. Comment on soigne le handicap ? Et là, avec ce changement et cette vision inclusive, c'est de dire, en fait, c'est pas que soigner le handicap, évidemment, il y a toujours des soins, mais c'est aussi accompagner à modifier l'environnement pour faciliter la vie, faciliter l'insertion de la personne, faciliter son accès aux droits et dire que les personnes en situation de handicap ont un droit global qui est l'accès aux droits communs. Donc c'est un vrai changement de paradigme et un vrai changement philosophique dans cette vision.
Voilà, vous avez parlé de la prise en compte donc de l'environnement. On pense bien sûr à l'environnement architectural. Il y a également toutes ces barrières sociales, professionnelles, hein, qui sont prises en compte dans cet environnement.
Oui, bien sûr, c'est l'ensemble de l'environnement, c'est l'environnement physique, l'environnement social, l'accès aux droits. Et donc, comme vous le dites, il y a l'environnement social et c'est pour ça que cette loi réaffirme le droit au travail des personnes en situation de handicap, réaffirme l'obligation d'emploi dans les entreprises de personnes en situation de handicap qui doivent employer 6% de personnes en situation de handicap et étend cette obligation, ce qui n'existait pas avant, aux administrations publiques. Et donc c'est aussi ça, en fait, travailler sur l'environnement, c'est dire les personnes en situation de handicap ont largement les compétences et on le voit tous les jours. On peut avoir sûrement des témoignages de gens qui travaillent en fait et qui font du très bon travail et que ça réaffirme, bah oui, les personnes en situation de handicap peuvent travailler et ont le droit d'avoir accès à un travail.
Voilà, ça, on y reviendra un peu plus en profondeur après. Vous avez dit que cette loi, on s'est mis un peu à un niveau d'autres pays. On est en retard par rapport aux autres pays ?
Alors, c'est cette définition inclusive du handicap. C'est une définition, comme je disais, qui a été portée au niveau international, qui était une définition notamment portée par l'Organisation mondiale de la santé et qui vient, le pays précurseur sur la matière, c'est le Canada et notamment le Québec.
D'accord.
Qui était très en avance par rapport aux autres pays. Il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur cette question et qui ont fait évoluer effectivement cette vision du handicap pour passer du côté curatif au côté inclusif.
Alors vous parliez de l'AMS, c'est la Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, le CIF, voilà, qui a marqué un glissement vers une approche systémique et sociétale.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un point, oui, cette prise en compte de l'environnement. Il y a plusieurs autres points, bien sûr. Hein, et avant de parler des principes, on va parler justement de ces définitions où on note un élargissement du concept du handicap à d'autres troubles que le handicap physique. C'était pas le cas avant ?
Alors, ça pouvait être le cas, mais là, on l'inscrit dans le corpus législatif. Et en fait, enfin, mais c'est dans toute la population, quand on pense handicap, très souvent, les images qui y sont associées, c'est fauteuil roulant, canne blanche, appareil auditif. En fait, très souvent, le handicap est vu comme le handicap moteur ou sensoriel. Sauf qu'il existe tout un autre panel de situations de handicap, tout un autre panel de troubles qui peuvent conduire à des situations de handicap. Et ça, c'est la deuxième grande avancée de cette définition, c'est de dire effectivement, le handicap, il n'est pas que sensoriel et moteur, il peut aussi être mental, cognitif et psychique. Et ça, enfin, c'est un vrai changement. Et c'est ça qui a permis derrière de faire des progrès, mais phénoménaux depuis 2025 sur la prise en charge des troubles du neurodéveloppement, par exemple, la prise en charge de l'autisme. Et typiquement en Lozère, ici, il y a une vraie expertise sur la prise en charge des troubles du spectre de l'autisme. On a une unité spécialisée portée par le Claude Unis sur ces troubles-là. On a des équipes qui sont formées, qui sont précurseurs au niveau national. Mais c'est aussi parce que justement, on a élargi en disant. Le handicap, c'est pas que être dans un fauteuil roulant. Évidemment, quand on est dans un fauteuil roulant, on est en situation de handicap et il faut s'en occuper. Mais c'est pas que ça, il faut l'élargir aussi aux autres troubles.
C'est fou de se dire qu'il a fallu attendre 2005 pour que ça rentre dans la définition du handicap, quand même.
Les fameux handicaps invisibles, c'est-à-dire que ça ne se voyait pas, du coup, on en parlait moins, en fait. Voilà. Et depuis 2005, voilà, il y a eu un vrai progrès des prises en charge à ce niveau-là. C'est vrai.
Et vous le voyez dans la communication grand public, enfin, on parle des troubles 10, enfin, c'est des choses dont on parlait peu avant, et effectivement, c'était invisibilisé. Et c'est aussi ça l'intérêt de la loi, et on peut remercier le législateur là-dessus, d'avoir rendu visibles ces situations. Alors bien sûr, ça prend du temps, il faut se l'approprier, mais c'est une vraie avancée.
Oui, en plus, il y a des différences entre troubles psychiques, troubles mentaux, troubles de santé invalidants. Enfin, voilà, c'est extrêmement large. Hein. Moi, je pensais que c'était à peu près, voilà, il y a les troubles psychiques, mentaux, c'était la même chose. En fait, finalement, non. Quoi.
Là, les troubles du neurodéveloppement, dans lesquels il y a les TSA, les troubles du spectre de l'autisme. Donc, effectivement, ça englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, c'est vrai.
Et c'est pas la même réponse.
Typiquement,
sur l'accessibilité, je vous laisserai voir. L'accessibilité, pareil, on voit toujours une rampe pour permettre à un fauteuil roulant d'accéder. C'est aussi, par exemple, dans les magasins, changer l'éclairage ou des choses comme ça pour certaines personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme.
Et effectivement, concernant les aménagements qu'on peut avoir pour permettre aux personnes effectivement en situation de handicap, de pouvoir se déplacer, appréhender leur environnement. Dans les établissements recevant du public, on peut être amené aussi à avoir, par exemple, des contrastes de couleurs sur le mur, pouvoir identifier les portes, les voies de sortie. Ça peut être utile également dans les sanitaires, avoir un contraste, ne pas avoir des murs blancs et du carrelage blanc. Une approche des travaux qu'on n'a pas nécessairement de premier abord.
Et qui va même jusqu'à l'accessibilité numérique, qui est un thème de plus en plus prégnant, parce que l'accessibilité, enfin l'environnement, c'est pas que l'environnement physique, c'est aussi l'environnement qu'on trouve sur le net. Et avoir des sites internet qui permettent, par exemple, à des personnes non-voyantes de les consulter en explicitant ce qu'est une photo sur le site, ça, c'est vraiment de l'accessibilité.
En fait, je pense qu'il faut rappeler que la loi de 2005, elle visait une accessibilité généralisée, tant des bâtiments publics, des logements neufs, mais également l'accessibilité numérique des services publics, notamment, je pense à ceci en tant que représentante d'un service de l'État. C'est une approche large qu'il faut avoir en tête, avec donc un enjeu de société fort à tout niveau.
Il y a un autre point aussi, parmi les nouveautés de cette loi, c'est la dimension participative. Le texte qui insiste sur les restrictions de participation à la vie en société, mettant l'accent sur la nécessité de rendre les espaces publics, le travail et les services accessibles. Voilà, donc ça, on en a un peu parlé, on va en parler longuement dans cette émission, notamment avec vous, la direction départementale des territoires. L'objectif, c'est de favoriser l'autonomie et l'inclusion, toujours, des personnes en situation de handicap.
C'est ça, et de se dire que l'inclusion, elle ne se fait pas sans les personnes en situation de handicap. Donc c'est pour ça que cette loi, elle crée au niveau national une conférence nationale du handicap qui inclut les associations, les personnes représentatives du handicap, qui crée le Conseil national des personnes en situation de handicap, qui crée les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, qui doivent être à la fois le guichet unique pour attribuer les droits et aussi, enfin, dans l'idée de la loi, c'est la maison des personnes en situation de handicap, et puis après dans tous les établissements qui cherchent à inclure ces personnes. Alors après, peut-être qu'on pourra avoir un témoignage, mais c'est la question de se dire, est-ce que cette inclusion et cette participation des personnes en situation de handicap, elle est réussie? En tout cas, moi, je souligne votre volonté de demander pas juste à des représentants de l'État, mais aussi à des personnes qui vraiment sont concernées de témoigner aujourd'hui, parce que c'est ça, l'inclusion.
Alors justement, on en parlait avec Maryse dans la voiture. Tu serais d'accord, Maryse, de nous parler un peu de ta vie aujourd'hui, ta vie de tous les jours? Justement, on parlait de ça dans la voiture, de te dire la façon dont aujourd'hui vous vivez le plus normalement possible en ville, dans la société, dans ton quotidien.
Je suis Maryse Adjé. Je suis à Paulbois depuis 2011.
Donc un des ESAT du Cluny.
Oui, des ESAT du Cluny, de Marvejol. Avant, j'étais à Saint-Chély. Je voulais travailler comme étant auxiliaire de vie. Je n'ai pas pu le faire parce que j'ai eu mes graves problèmes de santé. Donc j'ai arrêté. Et je suis allée voir la Corte-Rep qui m'ont dit de m'orienter vers un ESAT. Et c'est là que j'ai intégré Paulbois depuis 2011. Donc, je me suis bien intégrée. Et là, je suis devenue déléguée de tout le personnel de Paulbois. Donc, je fais une permanence tous les vendredis matin, de 11h jusqu'à midi et quart. Je reçois les personnes qui veulent me parler de leurs problèmes, que ce soit personnel ou du travail. Et après, moi, je note ce qu'ils me disent. Et quand c'est vraiment urgent, je vais voir la direction et on voit ce qu'on peut faire pour cette personne. Et sinon, après, on peut attendre pour le reste.
Donc ça, c'est ton rôle au Paulbois. Ouais. Après, quand on parle de la société,
après,
aujourd'hui...
Voilà,
donc
je suis indépendante. Voilà. Je ne loge pas dans un ESAT, dans un foyer. J'ai mon propre logement. Je fais mes courses comme tout le monde. Je suis indépendante. J'ai des enfants. Donc, voilà. Puis, mon quotidien, c'est faire de la marche.
Donc, vous êtes vraiment pas comme tout le monde. Vous êtes tout le monde. Vous êtes une Lausérienne qui travaille en Lozère.
Qui travaille en Lozère.
Et qui est déléguée du personnel de l'ESAT, qui tient son rôle à cœur. Elle nous parlera de certaines acquisitions
tout
à l'heure.
Vous allez voir ça. J'ai fait jusqu'à présent, oui.
Voilà, parce que là, on l'a plus ou moins dit sans le préciser formellement, mais cette loi, l'un des objectifs, c'est de remettre la personne en situation de handicap au cœur du dispositif. Et donc là, c'est le plus bel exemple. Délégué du personnel, on ne peut pas être plus au cœur du dispositif pour faire avancer les choses ou les faire changer.
Alors, c'est déjà la loi de 2002 qui remettait la personne au centre de son parcours, en fait. Il y avait la notion d'intégrer un petit peu de l'autodétermination, la personne qui choisit, qui est impliqué dans son projet personnalisé. La loi de 2002 mettait en place les projets personnalisés, a mis en place les CVS. Et la loi de 2005 vient vraiment sur la partie inclusive dans la société. C'est-à-dire que la personne, en 2002, est remise au centre de son parcours, peut choisir son parcours. En 2005, elle est inclue dans la société. Elle peut choisir que son parcours, ce soit de vivre en ville, dans son propre appartement. Maryse, ce n'est pas le cas, mais pour certaines, de choisir de travailler dans une entreprise dite du monde ordinaire. Pour les enfants, ça va être des inclusions. Alors, 2005 crée notamment c'est 2005 qui crée les classes Ulysse, ou je me trompe. Voilà, pour les aider à s'intégrer au niveau scolaire. Donc, il y a vraiment, comme le disait Monsieur Marette, le repositionnement de la personne accompagnée dans son environnement global et pas uniquement l'institution au sein de laquelle il est accompagné.
C'est peut-être compliqué comme question, mais est-ce que tu as vu une évolution, toi, Maryse, de la prise en compte de la personne en situation de handicap, une évolution positive au cours des années, notamment peut-être avec cette barrière de 2005
Des personnes qui viennent
D'une facilité de prise en charge, d'accessibilité, d'inclusion.
Ah oui. Nous, on en a plusieurs qu'ils ont du mal à marcher. Donc là, moi, j'ai fait une réunion hier pour parler des transports en commun, parce qu'on a deux cars qui viennent pour amener les résidents au travail, et on a deux personnes, effectivement, qui ont du mal à marcher. Et donc, on essaye de leur donner, pour qu'ils aient une place arbitraire dans le car, pour qu'ils puissent pas aller dans les allées parce qu'ils marchent avec des cannes.
Il y a une place attitrée pour eux.
Ils ont des problèmes tout ça. Donc comme c'est pas fait encore, on va le mettre en place.
Donc, il y a des choses à faire encore.
Il y a des choses à faire. Ouais. Donc voilà.
Donc il y a du boulot.
Sinon après il y en a une autre qui a une chaise qui est une chaise roulante électrique. Donc pour elle, oui, il y a des facilités pour circuler. Donc il y a des ascenseurs. Donc voilà. Et ouais, c'est bien intégré
au sein de l'ESAT. Mais là, tu parles de son intégration au sein de l'ESAT.
Mais après, en dehors, parce qu'elle vit avec ses parents. Donc en dehors, je sais pas après comment elle vit. Donc, je pense que c'est ses parents qui doivent l'aider au quotidien, quoi.
Alors, sur ce point, il me semble important de rappeler que la loi de 2005 visait une accessibilité à tout et pour tous. Donc, on parle de la chaîne de déplacement qui va du cadre bâti, de la voirie, des aménagements des espaces publics jusqu'au transport. Donc, effectivement, l'idée, c'est que la personne en situation de handicap soit en capacité de se déplacer dans la ville pour accéder aux lieux publics, à son espace de travail professionnel et disposer, on va dire, de toute facilité en la matière. Alors, je ne vais pas dresser un bilan trop négatif, mais on sait qu'il y a encore des avancées importantes à mener. Un bilan qui peut être un peu mitigé au regard de l'ampleur des aménagements et des travaux à réaliser. On peut tous le voir autour de nous. Parfois, on se retrouve contraint par une marche pour accéder une simple marche pour accéder dans un commerce peut être, rendre totalement impossible son accès. Donc, c'est notamment, on va dire, une politique qui est portée par la DDT, la Direction départementale des territoires, de pouvoir apporter conseil notamment aux gestionnaires des établissements recevant du public pour qu'ils puissent intégrer les normes d'accessibilité à mettre en œuvre dans le cadre de travaux.
Oui, après ça, oui, c'est un problème partout en France, c'est pas propre à Lozère. C'est vrai que c'est une des limites de cette loi, l'accessibilité physique, parce que c'est vrai que souvent les collectivités, ça leur demande beaucoup de financement. Mais bon, il y a quand même une évolution, on voit petit à petit, c'est pas suffisant, mais
Du coup, je crois savoir qu'il y a un fonds dédié, du coup.
Oui, tout à fait. Je voulais réagir. Tout à l'heure, il a été fait référence à la Conférence nationale du handicap. Donc la dernière, qui s'est tenue en avril 2023, a décidé la création d'un fonds, de plusieurs fonds financiers, dont un particulier qui s'appelle le fonds territoriale d'accessibilité qui, en fait, vise à aider les petits établissements recevant du public à faire des travaux d'aménagement d'accessibilité et également à financer l'achat d'équipements spécifiques. Donc, quand on parle de petits établissements recevant du public, on a une liste qui existe et qui vise plus particulièrement les cabinets médicaux, à titre d'exemple, hein, les restaurants, les commerces, les hôtels, les banques. Voilà, je pourrais encore en énumérer. Mais donc l'idée, c'est que c'est ces établissements qui ne sont pas nécessairement accessibles par faute de moyens, hein, parce que ça a un coût, bien entendu, de réaliser ces travaux, que ces établissements puissent être aidés financièrement.
Du coup, comment on a accès à ce fonds aussi, en étant rapide, hein, parce qu'après,
oui,
on pourra mettre
fait.
Le lien au niveau
tout
de...
Tout à fait. Donc, c'est un fonds qui est à solliciter via l'Agence des services et de paiement. Donc, il y a un site Internet sur lequel une demande doit se faire de façon dématérialisée. Si ces travaux nécessitent des autorisations spécifiques, la Direction départementale des territoires instruira celle-ci pour soumettre ces travaux à la sous-commission d'accessibilité. Et de façon très concrète, les pétitionnaires peuvent bénéficier d'une subvention d'un taux de 50% dans la limite d'un montant total de 20 000 euros. Donc c'est quand même des montants qui peuvent être importants dans la démarche de réalisation de ces travaux.
Bon, on pourra mettre le lien sur les réseaux pour les personnes qui sont intéressées.
Mmh. Sachant que c'est un fonds qui est censé perdurer jusqu'en 2028.
D'accord.
Mmh. Vu qu'on parle de fonds, on va continuer dessus. Il y a donc cette loi, elle instaure plusieurs principes. Hein. Il y a le principe de la compensation. On va parler de prestation de compensation du handicap, la PCH. Qu'est-ce que c'est ? Ça a été mis en place suite à cette loi, on me le confirme, 2005 ?
Oui, c'est ça. La PCH, c'est un nouveau droit qui permet d'attribuer des aides à la personne en situation de handicap. Donc, prestation de compensation du handicap. Concrètement, c'est justement dans la lignée de cette visée inclusive, c'est de dire... L'État va accompagner, l'État et le conseil départemental vont accompagner les personnes en situation de handicap pour prendre en compte les surcoûts qui sont liés à sa situation de handicap. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de handicap, bah, potentiellement, il faut aménager votre salle de bain. Potentiellement, il faut avoir en fait une aide à domicile pour faire la cuisine, pour aider sur les travaux d'aménagement. Potentiellement, vous avez besoin de plus de matériel médical. Potentiellement, vous pouvez avoir un véhicule différent. Donc, toutes ces dépenses que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap n'ont pas à supporter, le principe est de dire il faut qu'il y ait une solidarité et donc qu'il y ait un droit pour cette compensation. Donc, après, ce droit est attribué par la MDPH pour permettre aux personnes en situation de handicap de compenser ces surcoûts.
Cette compensation, ça vous aide tous les deux ? C'est suffisant ?
Ah oui.
Oui ?
Ah oui.
D'accord. C'est bien alors. Ça veut dire que ça marche.
C'est parfait. Ils sont satisfaits. Nickel. On a parlé de la MDPH tout à l'heure. Alors la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées qui ouvre les droits en fait aux personnes. Vous êtes amené à y aller, à les consulter régulièrement. Vous y dirigez vers eux assez facilement. Comment se passent vos relations?
Mais des fois, ils m'envoient un courrier pour me donner rendez-vous. Et donc, on fait le point. Et puis, voilà. Quoi.
Voilà, pour voir voilà. Si potentiellement les voilà. droits doivent ouais, être voilà. revus.
Ils
par m'ont rapport...
renouvelé jusqu'en 2000, je ne me rappelle plus. Mais voilà.
Voilà, donc c'est aussi le rôle des maisons départementales des personnes handicapées, d'accord, qui est donc qui ont été mises en place par la loi de 2005. Et toi voilà. aussi, Dani? Toi aussi, Dani, tu as pu recevoir un courrier de la MDPH pour réviser tes droits. Non, pas récemment, tu t'en rappelles pas?
Non, moi c'est la curatelle qui gère donc.
D'accord.
Alors sur les MDPH, je pense qu'on peut souligner que ici, les MDPH, elles ont été créées donc dans chaque département. C'est des structures qui sont portées administrativement par les conseils départementaux, mais dans lesquelles participent l'État et les associations, notamment parce qu'il y a toujours cette volonté d'inclusion des personnes en situation de handicap dans les institutions qui s'en occupent. Et on peut souligner ici qu'en Lozère, on a une, aussi, au vu de la taille de la population, on a la chance d'avoir une MDPH qui peut répondre aux sollicitations. Très fréquemment, au niveau national, on souligne des délais de traitement qui sont trop longs. Et ça, c'est une des difficultés de la loi de 2005 qu'on essaye collectivement de régler. Ce n'est pas le cas forcément sur ce département où la MDPH arrive à répondre rapidement aux demandes et aux sollicitations des personnes en situation de handicap. Donc c'est la chance, là, en tout cas, dans ce département, parce que quand vous êtes, par exemple, à la MDPH Paris, vous pouvez attendre 6, 8, 9 mois avant d'avoir une réponse.
Et c'est ce que disait Monsieur Anino, qui est le directeur adjoint de la MDPH et qui était à ce micro lors de notre dernière émission, ou une de nos dernières émissions. Il insistait vraiment aussi sur les capacités de la MDPH à s'adapter aux besoins, aux évolutions de la personne en situation de handicap et à ses droits qui peuvent évoluer. Et là, on rentre dans la notion de parcours, c'est-à-dire que cette notion de parcours de la personne handicapée qui évolue au fil du temps, au fil des événements, au fil des envies, des besoins. Et du coup, la MDPH est très présente via la commission, une commission spécifique, pour vraiment réévaluer les droits de façon régulière par rapport à ces évolutions, hein, à chacune. D'où ce courrier que, Marie, tu as reçu pour voir s'il y avait des évolutions à avoir au niveau de ces droits.
Oui, parce qu'en plus, ils me demandaient, quand j'étais devant eux, si je voulais quelqu'un pour m'aider dans mon quotidien. Je leur ai dit que tant que je pouvais le faire, c'était parfait, je le faisais.
Ah ben voilà. Donc ils ont fait, ils ont fait le job, hein. Voilà. Ils ont fait le job. Bon, donc c'est pas pour cette fois.
Non. Peut-être ça viendra, mais je pense, je préfère assez tard, quoi.
Cet exemple, il est marquant, je trouve, parce que justement sur cette définition, comme on disait, de situation de handicap et d'évolution, c'est de dire, en fait, votre situation, elle n'est pas figée ad vitam aeternam. Elle évolue, et donc, je trouve ça très satisfaisant que la MDPH ait pu vous recevoir, en plus, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de MDPH dans le département qui n'arrivent pas à recevoir les gens pour dialoguer avec eux, en vrai, et là, pour vous recevoir et pour comprendre quels sont vos besoins. Et en fait, c'est vraiment ça, la loi de 2005, c'est quels sont les besoins de la personne en situation de handicap et comment on essaye de s'y adapter. Et ces besoins, évidemment, ils évoluent, parce que l'environnement, il évolue. Vous n'aurez pas les mêmes besoins quand vous avez 20 ans et quand vous en avez 40.
Hashtag Ludovic Terrol, Anne Clémence.
L'accessibilité universelle, autre principe, on l'a vu. On va juste rappeler, comme vous l'avez dit, Monsieur Maret, qu'il y a aussi l'accessibilité pour les technologies numériques et les systèmes de communication auxquels on ne pense pas forcément. Troisième principe, on l'a un peu évoqué, la scolarisation et l'inclusion en milieu ordinaire. Donc on a parlé des classes ULIS. C'est vrai qu'il y a pas mal de classes ULIS sur le département. Il y en a une qui s'est ouverte à Chanac très dernièrement pour les sections maternelles.
Alors, ce n'est pas une classe ULIS. C'est une unité d'enseignement externalisée, et là sur Chanac c'est une unité d'enseignement autisme en maternelle, voilà, donc pour accueillir des enfants sur l'âge jusqu'à 6 ans, hein, la maternelle,
c'est ça, c'est jusqu'à 6 ans, ouais.
Donc sur la classe de Chanac. Mais effectivement, l'évolution de cette loi a amené aujourd'hui
est-ce que c'est un dispositif qui découle
dispositif, effectivement, la loi de 2005 mettait en place les classes ULIS. Les classes ULIS, en fait, ce sont des dispositifs au sein des établissements où les enfants qui ont des soucis pour poursuivre, qui ont des besoins particuliers, peuvent avoir des heures de soutien spécifiques dans ces classes ULIS. Et aujourd'hui, on va encore un petit peu plus loin, c'est qu'il y a une notion inclusive qui est un petit peu plus poussée avec les UEE ou les UEMA, toutes ces unités externalisées, on va dire, globalement, qui amènent à créer des classes spécifiques au sein d'écoles ordinaires, en fait. Voilà, et c'est ce qui a été développé ces dernières années, et notamment à Chanac, avec cette première unité d'enseignement autisme, spécialisée pour accueillir des enfants autisme au niveau des classes maternelles, c'est-à-dire tout petit, dès le plus jeune âge. Parce qu'effectivement, quand on parlait d'handicap, tout à l'heure, la notion d'handicap, voilà, il y a ces prises en charge d'enfants autistes qui sont très spécifiques, amènent à avoir des solutions très spécifiques également, mais pour autant inclusives de plus en plus.
Et effectivement, c'est une des grandes avancées de la loi de 2005 de prévoir le principe de l'accès au milieu ordinaire. C'est quelque chose qui a été renforcé par la loi de 2013 spécifique à l'éducation, qui parle spécifiquement d'école inclusive, donc qui met ce terme dans le corpus. On a des effets, hein, clairement, de ces dispositions au niveau national. On avait 321 000 élèves scolarisés en situation de handicap en 2017. On est à 400 000 en 2022, donc c'est plus 20% quasiment en 5 ans. C'est vraiment des bons en avant. Et avec des multiplications de dispositifs qui permettent vraiment en fait de s'adapter encore une fois à la personne. C'est-à-dire, on a parlé là des ULIS, on a parlé des UEMA. On a ouvert récemment une unité d'enseignement à l'association Les Genêts à Châteauneuf-de-Randon pour des enfants qui ont des polyhandicaps, qui sont vraiment dans des situations très compliquées, mais de dire, mais même ces enfants, ils ont le droit à l'éducation. Alors, évidemment, ces enfants, c'est pas les mettre dans des classes ordinaires, là, parce que ça ne marcherait pas forcément, mais c'est réussir toujours à trouver des solutions pour assurer le droit à l'éducation de tous les enfants en situation de handicap. Et là, depuis cette ouverture, la Lozère est un des rares départements où chaque élève a une possibilité d'accès à l'éducation. On est à 100% de possibilité d'accès à l'éducation sur la Lozère, et c'est vraiment une avancée qui est très importante, et on va continuer à travailler sur le sujet dans le cadre du plan 50 000 solutions. Il y a des travaux menés par l'éducation nationale avant tout, mais aussi évidemment avec nous l'ARS, mais sur comment on déploie d'autres dispositifs. Il y a ce qu'on appelle les dispositifs d'autorégulation également pour les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, qui permettent là, justement d'aller dans les milieux ordinaires, mais d'aider en fait ces personnes à mieux réguler leurs émotions, parce qu'on sait que c'est leur sensibilité à l'environnement extérieur qui peut compliquer en fait l'intégration dans le milieu ordinaire, et donc des dispositifs spécifiques pour les aider à mieux réguler les sollicitations extérieures, leurs émotions, et derrière être intégrés dans le milieu ordinaire. Donc ça, c'est vraiment une des grandes avancées. Alors on parlait tout à l'heure, la DDT disait que la loi avait pas tout résolu, qu'il y avait encore des chantiers, et on le sait, sur l'inclusion scolaire, il y a encore des chantiers, mais vraiment il y a des avancées qui sont notables et sur lesquelles on continue à travailler.
La DDT n'intervient pas là, hein, dans la scolarisation. Et
non, on peut être amené à voir effectivement des dossiers portés par des communes, hein, pour aménager des locaux scolaires. Ça, bien entendu, il y a des démarches qui sont portées par les maires, il faut quand même le rappeler. Hein, bien souvent, ce sont des bâtiments anciens, donc avec des contraintes architecturales qui peuvent compliquer les travaux, mais on essaye de trouver... les maîtres d'œuvre essaient de trouver des solutions.
Et donc vous intervenez quand même. La DDT
intervient quand même. Elle intervient quand même.
Si vous avez un dispositif avec des enseignants qui permettent de prendre en charge, mais que l'enfant ne peut pas accéder à la classe, l'inclusion, c'est une vision globale quand même. Hein. Donc heureusement que vous êtes là.
C'est bien de le rappeler.
Alors, on a le principe aussi, on en parle souvent dans ces émissions, de l'emploi, de l'insertion professionnelle. Alors, comment la loi aborde-t-elle l'insertion professionnelle des personnes handicapées? Qu'est-ce qu'elle a changé, cette loi de 2005?
Alors c'est plutôt la DTETSPP, enfin pardon, une autre administration de l'État qui s'en occupe spécifiquement, mais cette loi, elle réaffirme là un principe qui existait déjà, qui est le droit d'accès au marché du travail des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que, enfin, la première fois qu'on a affirmé ce principe, c'est en 1987, donc c'est plus ancien. Mais avant, en fait, il y avait le principe juste de dire les personnes en situation de handicap, en fait, on les exclut du marché du travail, ce qui était une aberration. Du point de vue macroéconomique, parce qu'en fait, on se prive d'une force de travail, et puis pour les personnes en situation de handicap, avant tout. Donc là, cette loi, elle réaffirme ce principe, et elle réaffirme notamment aussi, enfin, au-delà du principe, une obligation pour les employeurs privés et publics, et ça, c'est la grande innovation aussi, de dire le public doit aussi être exemplaire, une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap pour en fait, aussi changer les mentalités, changer le regard sur le handicap.
Voilà, c'est ce qu'on disait en début d'émission, 6% hein, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à hauteur de 6% de leurs effectifs. Maryse Dany, là, vous travaillez en ESAT. Est-ce que vous avez travaillé un moment dans le monde du travail ordinaire, entre guillemets, et est-ce que vous avez été rencontré à est-ce que vous avez rencontré des difficultés, par exemple ?
Moi, oui.
Oui, Dany, explique-nous. Tu travaillais où, par exemple ? Bien devant le micro.
J'ai été dans le Cantal. J'ai travaillé dans l'entreprise qui faisait du placo peinture.
D'accord.
Et donc, du coup, là, mes difficultés, c'était plus le rendement. Donc, après, j'ai eu des soucis dus à mon surpoids. Après, avec les autres gars, c'était compliqué. J'étais harcelé de tous les côtés, sur les chantiers. Donc, c'était très difficile. Et après, ça m'a engendré dans une dépression, mais...
Oui.
C'était compliqué. Et après, je suis rentré dans un ESAT parce que, voilà, j'étais en espacer pour mieux perdre du poids et tout ça, dû à mon surpoids. Et après, ce qui m'a poussé à envie d'être délégué, c'est pour pas que les autres subissent le même sort que moi j'ai subi.
Ça reste compliqué, le monde du travail ordinaire.
Très compliqué.
C'est sûr.
Alors, donc là, toi, Dany, en fait, ton exemple, c'est parce que c'était ton expérience avant d'intégrer un ESAT qui a été plus adapté. Voilà, ça a été une solution qu'on a trouvée par rapport à ta situation. Aujourd'hui, et c'est ce qu'a incité, c'est ce vers quoi veut tendre la loi, c'est que des personnes qui sont aussi en ESAT puissent pouvoir intégrer des entreprises, retourner en ESAT d'ailleurs aussi. Aujourd'hui, il y a une histoire de... On peut aller et venir du monde ordinaire vers l'ESAT. Et aujourd'hui, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place pour permettre ce qu'on appelle l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi dans l'emploi. Donc, il y a des dispositifs qui sont aussi assez adaptés pour qu'il y ait quand même des réussites et que ça puisse faire très bien. Et on a de très beaux exemples. D'ailleurs, on a fait une soirée au Clos d'Uni au mois de novembre, dans le cadre de la semaine des personnes en situation de handicap, où on a valorisé des exemples d'intégration de personnes en situation de handicap en milieu ordinaire complètement réussi, parce qu'aujourd'hui aussi, grâce à l'évolution de la loi, il y a des dispositifs qui se mettent en place pour aider à ce que ça fonctionne bien. C'est qu'on accompagne vers, mais aussi dans l'emploi. Donc il y a des job coach, pour permettre aussi d'accompagner les entreprises un petit peu plus, parce que c'était pas aussi évident en tant qu'entreprise d'accueillir si on n'a pas certaines règles, certains codes. Comme le disait Monsieur Marette, une personne en situation avec des troubles du spectre de l'autisme, il y a des codes à avoir, des choses à avoir. Peut-être que ne serait-ce que lui mettre des bouchons d'oreille, ça va complètement améliorer sa situation. Donc voilà, donc les entreprises sont beaucoup plus aussi accompagnées pour que ça puisse fonctionner, et ça fonctionne, parce qu'on a de très belles réussites d'intégration.
Il y a des obligations des employeurs en matière de recrutement, mais aussi d'adaptabilité du poste aussi. C'est ça, on ne peut pas laisser n'importe qui sur n'importe quel poste si ça ne convient pas, et l'adapter pour que ça puisse marcher.
Et notamment, c'est le principe de dire que les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de 6% peuvent être pénalisés, y compris financièrement, en fait, verser une amende quelque part, et en fait, cet argent est réutilisé derrière pour financer des adaptations au poste, pour être toujours dans comment on répond aux besoins de la personne.
Alors, tant que Monsieur Marette est là, l'ARS et ses compétences santé, ce qui est intéressant aussi, peut-être ce dont il est intéressant peut-être de parler aussi, c'est l'accès à la santé. Et on a un très beau dispositif sur le département qui s'appelle Handi Consult, et dont on peut peut-être un petit peu parler.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup, parce que je voulais en parler, parce qu'on en est vraiment très satisfait. C'est-à-dire que, en fait, l'inclusion, comme vous l'avez dit, il y a tout un tas de thèmes, mais l'inclusion, c'est partout, tout le temps, dans tous les domaines. Et sur l'accès aux soins, c'est vraiment important, parce que, en fait, vous soignez pas de la même manière une personne en situation de handicap qu'une personne qui n'a pas de handicap. Et c'est vraiment toujours ce sujet de sensibilisation, c'est comment on sensibilise les professionnels de santé pour bien prendre en charge les personnes en situation de handicap qui parfois sont pas habituées aux soins. Et là, on a la chance, alors avec des équipes très très motivées au sein de l'hôpital Lozère, d'avoir mené ce qu'on appelle une handiconsulte, c'est-à-dire une consultation dédiée aux personnes en situation de handicap, où vraiment en fait ces équipes vont alors parfois dans les établissements pour aller en fait voir exactement comment quels sont les besoins de santé de la personne en situation de handicap et comment on va lui apporter. Et typiquement pour quelqu'un qui a des troubles du comportement ou des troubles du spectre de l'autisme, parfois en fait ils vont une fois, deux fois, trois fois voir la même personne avant en fait même de commencer à l'ausculter, juste pour que la personne s'habitue à eux. C'est ce qu'on appelle l'habituation aux soins. Et ça, enfin, clairement, quand vous allez chez le généraliste, vous n'allez pas faire trois rendez-vous chez le généraliste avant qu'il commence à vous ausculter. Mais parce que vous, ça ne vous pose pas de problème. La personne qui a des troubles du spectre de l'autisme, ça peut l'inquiéter. Et donc là, vraiment, en fait, c'est cet accompagnement, cette patience des professionnels de santé, là, qui sont vraiment très sensibilisés et très impliqués, qui permet vraiment de prendre en charge ces personnes et de pouvoir surtout les soigner, en fait. Parce que, évidemment, l'accès aux soins, c'est aussi un droit pour les personnes en situation de handicap.
Et donc il y a ce dispositif et on en parlait aussi tout à l'heure au Claude Uni, on a bien alors pour les personnes donc le dispositif du Consult, c'est pour les personnes pour qui l'accès aux soins en milieu ordinaire se révèle difficile, mais au Claude Uni, pour faciliter cet accès aux soins et le rendre le plus normal possible, on a mis un dispositif qui s'appelle le dispositif ressources soins. Comment ça se passe?
C'est le DRS.
Voilà. Donc DRS pour dispositif ressources soins. Toujours beaucoup d'anachronismes.
Alors, oui, ils ont fait ce dispositif pour les personnes qui sont pas capables de prendre des rendez-vous eux-mêmes, qui sont pas trop autonomes, pour les cachets, pour leur donner des cachets. Donc, ils vont voir les responsables qui travaillent dans ce milieu. Donc là, on leur donne les rendez-vous, on leur prend les rendez-vous pour aller à Mende, pour aller voir les spécialistes, pour voilà. Donc et puis même les externes peuvent y aller. Moi, on me l'avait proposé, mais moi, je suis autonome, donc moi, je me débrouille pas mal pour faire mes rendez-vous, pour voilà. Donc et puis voilà, mais je trouvais que moi, ils m'ont bien reçu et ils m'ont proposé de faire même les papiers, de remplir les papiers si j'arrivais pas à les remplir. J'ai dit que j'avais ma fille qui m'aidait, donc voilà. Mais c'est oui une structure qui était très très bien, parce que moi, quand j'ai eu que je me suis fait opérer de mon bras, la première fois que je me suis fait opérer de mon bras, parce que je me suis fait opérer deux ou trois fois, donc ils m'ont reçu pour faire les premiers soins.
Voilà, c'est ça.
Avant que je prenne rendez-vous avec les infirmières à domicile. Donc, c'est eux qui m'ont fait les premiers soins. Et donc, ouais, ça...
Et l'idée, en fait, quand on parle vraiment de replacer la personne en situation de handicap dans son environnement, de la rendre participative, l'idée, donc, a été de créer un local au centre-ville de Marvejols avec tout un dispositif lié aux soins. Et les personnes en situation de handicap s'y rendent de façon normale. Lorsqu'ils ont un besoin, ils vont dans ce voilà.
Ils ont des infirmières, ils ont une psychologue. Il y a de tout.
Et ce dispositif s'appuie bien évidemment lorsqu'il y a des d'autres difficultés sur le dispositif Handiconsult qui a été mis en place et qui fonctionne vraiment.
Il fonctionne très bien.
Voilà.
Autre grand principe de cette loi, la citoyenneté et la participation à la vie sociale. Alors, quel mécanisme la loi a-t-elle mis en place pour favoriser cette participation citoyenne des personnes handicapées ?
Alors, il y a des mécanismes nationaux, évidemment. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la Conférence nationale du handicap, le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est des choses au niveau national et qui permettent vraiment aussi de donner de la visibilité et quelque part de sensibiliser la population. Au niveau départemental, le fait que chaque maison départementale domaine des personnes en situation de handicap. Comme je dis, c'est la maison des personnes en situation de handicap. Et puis après, derrière, c'est à chaque échelle. Et donc, par exemple, dans tous les établissements médico-sociaux, il y a aussi le principe des conseils des CVS, conseils de vie sociale, je ne me trompe pas. Moi aussi, je me trompe sur les acronymes. Et puis là, on a des exemples de délégués, en fait. Donc, en fait, c'est comment la loi a favorisé, je ne sais pas si c'est la loi, mais c'est surtout les personnes qui s'engagent et donc des gens qui s'engagent en tant que délégués. Ça, c'est ça, la participation des personnes en situation de handicap.
C'est ça, en tant que citoyen à part entière, c'est-à-dire que voilà, ils sont, comme on le disait tout à l'heure, ils vivent pleinement en ville, à participer, à potentiellement... Alors vous, ce n'est pas le cas, mais certains sont intégrés dans sont adhérents à des associations, sont bénévoles dans des associations. Certains, après, participent activement à tout ce que mettre en place la ville. Et là, tout à l'heure, tu disais que toi, tu participais notamment aux journées du patrimoine, non ?
La journée occitane.
Oh, la journée occitane. Bon, je me trompe.
C'est l'été, ça.
Alors, explique-nous, qu'est-ce que...
En fait, la journée occitane, on montre aux autres gens qu'on contacte les pierres. Et du coup,
Est-ce qu'on n'a pas précisé, Dani, tu es tailleur de pierre.
C'est ça.
Ouais.
Donc, tu es à l'ESAT, un des ESAT du Claude Uni, qui développe une activité de taille de pierre.
Et on est les seuls ESAT de France à qui on le fait.
Bah voilà, chapeau.
Bravo.
Ouais. Et donc, tu fais des démonstrations lors de cette journée.
C'est ça.
Voilà, c'est participer, c'est ça, ce renforcement de la participation à la vie sociale, culturelle, sportive, citoyenne. D'ailleurs, la DDT, vous devez intervenir pour permettre aux gens de participer à la vie sportive, notamment en aidant à l'accessibilité de lieux sportifs,
des gymnases, bien sûr, tout ça. Des aménagements spécifiques qui peuvent être réalisés dans des salles polyvalentes, des salles des fêtes, salles de sport, tout à fait. Ce sont des dossiers qu'on voit passer et sur lesquels on reste attentif parce que ça entraîne bien souvent également des lieux de vie commune, ces salles, le côté cafétéria, clubhouse, où là, donc il y a également des règles qui s'appliquent, à savoir la hauteur des tablettes pour pouvoir se mettre un comptoir adapté, par exemple, un accès à une scène éventuellement. Donc effectivement, ça fait aussi partie des conseils qu'on peut être amené à donner, des dossiers qu'on examine.
Oui, parce que souvent on pense à l'accessibilité au service, au travail. On ne pense pas à tous ces à côté qui sont très importants, hein, culture, sport et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on peut dire, M. Maret, qu'on est passé d'un modèle médical à un modèle social et participatif avec cette loi ?
Alors, on est clairement passé d'un modèle médical à le modèle qui est inclusif. C'est vraiment le terme et l'objectif, d'ailleurs, que s'est fixé le gouvernement de société inclusive. Donc, en tout cas, on est passé dans l'objectif de ce modèle. Il y a encore du travail à faire. C'est évident. On a cité quelques chantiers qui étaient lancés tous, mais qui n'étaient pas toujours aboutis. Mais cet objectif, il reste. Et c'est aussi pour ça que c'est important de célébrer là ces 20 ans de la loi de 2005. Là, sur tout le territoire national, il va y avoir des célébrations la semaine du 11 février. En Lozère, on va avoir une journée à Montroda, parce que, comme vous dites, l'accessibilité, c'est aussi sur les services, tout ce qui est à côté, les loisirs, donc notamment sur le sport paralympique. On sort des Jeux paralympiques qui ont été une grande avancée, une grande visibilité. Et donc là, c'est de continuer à dire ça. On va avoir un événement normalement à Hyper-U, qui est justement, quand on parlait des entreprises sensibilisées, une entreprise très sensibilisée sur cette question. Et donc pour pouvoir sensibiliser la population générale. On devrait être présent sur le marché de Mende aussi pour faire des ateliers de sensibilisation, donner de l'information. Parce que est-ce qu'on est passé à une société inclusive ? Je ne sais pas si c'est encore le cas. Si c'est déjà le cas, en population générale, tout le monde n'est peut-être pas sensibilisé. Et donc, il faut qu'on continue aussi ce travail. Le travail, il est avant tout de sensibiliser et de faire accepter aux gens que, une personne en situation de handicap, elle a des droits comme vous. Elle peut travailler, elle peut accéder aux loisirs. Et que c'est aussi à nous tous, si on veut agir sur l'environnement, à nous tous de faire collectivement des efforts.
Alors, juste pour, parce qu'on arrive, je crois, à la fin, je voudrais juste parler d'un petit projet qui est en train de se développer sur Marvejols, qui est la mise en place de séances ciné-relax. Le ciné-relax, c'est quoi ? C'est donner accès à des personnes en situation de handicap, et quel que soit son handicap, du handicap cognitif, psychique, comme on disait tout à l'heure, des personnes en situation d'autisme, à des séances de cinéma, parce que c'est pas toujours facile pour des personnes qui ont ce type de handicap d'aller à une séance de cinéma. Donc là, les séances de cinéma seront adaptées, c'est-à-dire que on va choisir des films courts, on va pouvoir graduer l'extinction de la lumière, mettre le son beaucoup moins fort. Il n'y aura pas de bande-annonce pour vraiment aller directement visionner le film. On pourra se lever, faire un petit peu de bruit. Ça sera accepté parce que les personnes le seront au préalable. Donc voilà, la première séance aura lieu au mois d'avril. Et là, d'ailleurs, je lance un appel puisque nous sommes en train de recruter des bénévoles pour encadrer ces séances de ciné-relax qui auront lieu du coup au cinéma Le Trianon sur Marvejols. Voilà. Et quand on parle d'accessibilité, d'intégration sociale, d'adapter l'environnement, de s'intégrer dans l'environnement, le cinéma, ça en fait partie. Voilà. Et donc, ça sera des séances de cinéma. Et ça, j'insiste, ce sera ouvert aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides. Mais les personnes valides seront au courant que cette séance va peut-être avoir un format un petit peu différent, qu'il y aura peut-être un peu de bruit, qu'il y a une personne qui va peut-être pouvoir se lever, qu'une personne va réagir à ce qu'elle voit. Ça sera le premier cinéma de Lozère qui s'intègre à ce dispositif. Et Ciné Relax fête aussi ses 20 ans cette année. Donc, parce que ça avait été ouvert dans le cadre de la loi ça a été créé et instauré dans le cadre de la loi de 2005. Donc voilà, donc c'est chouette.
Mais c'est un super projet.
Voilà, et c'est un super projet. Donc voilà, donc appel aux bénévoles pour venir encadrer ces séances de cinéma et la première pour la première séance au mois d'avril. Voilà, il y aura une communication sur ce sujet. Mais on est en plein dans la loi de 2005 sur l'accessibilité, les différents handicaps, être citoyen comme tout le monde, participer à la vie de la société, adapter l'environnement. Donc voilà.
Et moi, de façon complémentaire, j'ai profité de cette tribune, si vous voulez bien, pour faire la promotion d'un outil. Un outil qui est une plateforme collaborative de l'accessibilité qui a été mise en place il y a maintenant, je crois, 2 ans, qui s'appelle Accès Libre, accroché en un seul tenant, qui permet en fait de référencer les bâtiments publics, lieux publics, qui ont fait des aménagements en termes d'accessibilité, et pour permettre à tout un chacun qui souhaite accéder à un restaurant, se déplacer dans un musée par exemple, de connaître les conditions d'accessibilité. Donc cette plateforme, elle est accessible à tous, elle peut être complétée par tout un chacun qui considère qu'il y a peut-être une utilité à mettre en valeur l'accessibilité qui a pu être réalisée sur un établissement. 500 000 établissements déjà référencés en France et on peut se féliciter une consultation de la plateforme qui augmente, qui a été en nette augmentation l'année dernière. Donc l'idée, c'est de pouvoir la faire connaître et qu'on puisse effectivement l'utiliser à bon escient.
Alors on mettra le lien aussi, c'est quoi ? C'est accèslibre.fr ?
Accèslibre, oui,
.fr, je pense. Voilà, comme ça on ne peut pas se tromper, on le mettra quand même en lien. Merci beaucoup.
On finit sur plein de notes optimistes, il y a quand même eu pas mal d'avancées, on l'a prouvé.
Il y a eu beaucoup d'avancées, il va y en avoir plein d'autres.
Voilà, et on reviendra donc sur ce programme autour de cette semaine du 11 février, dans les informations locales. Merci à vous d'être venus pour cette émission. On a encore appris beaucoup de choses et on vous retrouve le mois prochain, Anne, pour parler d'un autre sujet qui aura certainement pas de rapport.
Aucun rapport. Tu sais de quoi on va parler la semaine, le mois prochain, nous parlerons.
Je le sais. J'ai pas osé le dire, mais je me suis dit peut-être qu'elle veut le teaser.
On va parler. On va comme ça, on va donner un ordre d'idées. Ça sera, on va parler de l'atelier apiculture. Voilà. On va donner l'eau à la bouche aux gens. Voilà.
Et peut-être goûter du miel alors.
Voilà. On viendra avec du miel parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de choses à dire. L'atelier apiculture, plein de choses à dire.
À Paul-le-Bois, oui, il y a une structure.
C'est eux qui vont venir.
C'est eux qui vont venir. Voilà. Oui, ils ont beaucoup de choses à dire.
Ouais, ils ont plein de choses à dire.
Ils ont eu même le premier prix il y a, je crois, un an ou deux ans.
Ils ont eu le premier prix à Paris, de
miel. Ouais.
Tu pourras les préparer au direct, alors, leur donner des conseils.
Je leur dirai. Allez. C'est ça. Préparez-vous.
Allez, merci beaucoup, à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci.
Hashtag un autre regard sur le handicap.